Voix marseillaise. Marc Stamenia est un ancien galeriste, marchand d'art, expert reconnu du peintre marseillais Adolphe Monticelli et commissaire d'exposition. Pendant près de 50 ans, il fut par Mont et par Vaux au service de sa passion artistique. Issu d'une famille de restaurateurs de tableaux, établie à Marseille au 19e siècle, très jeune, il sut que sa vie professionnelle allait se dérouler dans le monde de la peinture et de la sculpture. Il a dirigé successivement plusieurs galeries marseillaises et créa un temps la Fondation Monticelli qui avait son siège au Fortin de Corbière, propriété de la ville de Marseille. Aujourd'hui, il vit à Uzès où il continue d'organiser des expositions autour entre autres des peintres provençaux du 19e et début 20e siècle. Un vieux londingre qui ne l'a jamais vraiment quitté. Rencontre avec Marc Stamenia, un passionné de l'art comme il en existe de moins en moins.
À 12-13 ans, je savais réentoiler un tableau, mais simplement parce que je voyais mon père travailler dans l'atelier en permanence. Et là, ça rentre complètement. Et vous faites un rejet, ou au contraire, vous passionnez.
Et qu'est-ce qui restaurait comme tableau? C'était quelle époque? Vous vous souvenez un petit peu?
Oui, je me souviens. Alors, il y avait pas mal de familles provençales qui emmenaient des tableaux anciens. Et puis, c'est là où on voyait quand même pas mal de tableaux provençaux. C'est là où j'ai vu beaucoup de Monticelli, parce que Monticelli ayant été apprécié, puisque Napoléon III avait acheté des tableaux pour son palais, pour les Tuileries, il en avait fait acheter pour des musées. Donc les grands notables bourgeois marseillais en avaient chez eux, donc il fallait les restaurer. Surtout qu'à l'époque, c'est même pas les restaurer, mais les tableaux, si vous voulez, souvent étaient vernis à l'huile de lin. Comme il y avait le suif des cheminées, au bout de 10 ans, on voyait pas grand-chose. Donc il fallait juste enlever ce vernis, en fait, et revernir, plus ou moins. Et donc c'était une rotation permanente d'entretien, en fait, souvent.
Et votre père, il avait son atelier où, à Marseille?
Alors il a eu son atelier d'abord en haut du Compère Puget, et dans une petite traverse, qui part du boulevard de la Corderie et qui rejoint le haut du Compère Puget, s'appelait le Domaine d'ailleurs, et après il a eu rue Grignon, un atelier aussi. J'ai pu le regarder travailler, mais surtout il m'a ouvert des portes, il m'a montré pas mal de choses qui ont fait que ça a permis à la passion d'arriver. Il était incapable de faire du commerce. Mais quand j'ai incapable, c'est pas... Vous voyez, c'était un grand restaurateur, mais il savait pas ni acheter ni vendre. Et ça, peut-être que ça m'a plu, et peut-être que c'est comme ça. C'est un truc que j'avais et qui m'a fasciné. Puis après, je suis rentré. Donc grâce à ça, j'ai pu voyager, enfin voyager pour mon boulot. Vous savez, les 10 premières années de ma vie, j'ai pas pris de vacances. Mais en fait, j'en prenais sans arrêt, puisque j'allais à Paris ou j'allais à Londres pour voir des choses ou pour rencontrer des confrères et pour avoir des contacts.
Vous avez fait des études d'art, enfin,
oui.
Autour de l'histoire de l'art.
À Lumini, quand Lumini a été ouvert d'ailleurs. Et j'avais donc d'excellents professeurs de dessin. Et j'avais en histoire de l'art, j'avais Madame Giraudy, qui est devenue la directrice du musée Picasso et puis après la directrice générale du musée de Paccard. Donc vous voyez, on avait quand même des gens qui étaient, et je l'ai revu toute ma vie, on a eu d'excellents rapports après, puisque j'étais rentré dans ma vie active et elle était conservatrice générale.
Qu'est-ce que les études vous ont apporté pour la suite de votre carrière?
Alors l'histoire de l'art, ça m'a apporté, parce que c'est toujours intéressant, et puis en même temps ça vous oblige à aller plus loin, sans arrêt, parce que quand vous ouvrez un bouquin, il y a toujours le petit astérix qui vous renvoie à notre bouquin. Donc, il faut racheter et continuer. Et après, quand vous aimez ça, ben, ça devient un plaisir. Les beaux-arts, moins, parce que j'étais pas fait pour être artiste, et j'en suis très conscient. J'étais pas fait pour être restaurateur, parce que mes prédécesseurs, mon père et mon grand-père étaient bien meilleurs. Je l'ai fait avec plaisir, mais sans passion, alors qu'après, oui.
Vous savez dessiner ?
Ben écoutez, je sais dessiner parce que j'ai fait les beaux-arts, parce que j'ai eu la chance d'avoir des prix, mais je vous dis, je ne suis pas un artiste, loin de là. Dessiner, voilà.
Vous insistez quand même sur le fait qu'un bon artiste doit savoir dessiner. Le dessin, c'est important.
Mais complètement, mais ça c'est essentiel. C'est complètement essentiel, et regardez les anciens. On fait des... Regardez, tiens, un garçon comme Van Gogh. Van Gogh a pris que 6 mois de cours de dessin. Mais en fait, avant de réaliser un tableau, il faisait à peu près 100 ou 150 dessins. Et il évoluait chaque fois. Et puis un matin, il était sur le terrain, et en 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, il avait fait son tableau. Mais en fait, il avait mis 6 mois pour le faire, en évoluant et en dessinant. Et tous les grands ont des dessins très, très, très poussés avant de réaliser leurs œuvres.
Et donc aujourd'hui, quand vous regardez le travail d'un artiste, vous essayez de savoir aussi quelle formation il a eue.
Ben oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est toujours difficile parce qu'on ne peut pas se rattacher. C'est souvent des œuvres qui sont particulières, je voudrais dire. Et donc, on ne peut pas se rattacher, mais on se rend quand même compte. Enfin, quand on a un peu l'habitude, je dis bien un peu, hein, l'habitude de restaurer ou de voir des dessins ou de voir des milliers de tableaux, si derrière, il y a quelque chose de sûr, de costaud. Et pas juste, j'ai acheté des pinceaux la veille et après-demain, je vais vendre.
Alors ici, on est au 77 rue Saint-Jacques. C'est là que tout a commencé pour vous au niveau professionnel. Dites-moi un peu comment ça a commencé et que représente ce lieu pour vous.
Alors, ce fut assez étonnant parce qu'en fait, moi, je suis parti assez jeune de chez moi. Je vous dis, je n'ai pas eu trop d'excellents rapports, bien que je le regrette. Et avec la maman de mes enfants, on a ouvert ce lieu. Elle était passionnée par les recherches. C'est pour ça qu'elle a écrit d'ailleurs un bouquin sur Van Gogh et Monticelli. Et donc, ce fut un binôme parfait parce que moi, je commençais à faire du commerce. Le soir, je faisais des restaurations de tableaux et elle faisait des recherches sur les œuvres ou sur différentes choses. Et donc, on a pu avoir cette conjonction qui a fait que cet atelier est devenu après rapidement un rendez-vous, parce qu'à l'époque on pouvait se garer, un rendez-vous le soir de certains chefs d'entreprise ou de certains collectionneurs qui venaient boire un verre, et puis certains achetaient ou par plaisir, et la porte s'est ouverte. Et puis en plus il y a eu une période aussi avantageuse pour les gens de ma génération qui étaient dans le métier. C'est qu'il y a eu pas mal de bastides qui ont été réquisitionnées, vous savez, pour construire des cités, pour avoir des... Ce qui est normal, puisque de toute façon, il y avait des gens qui arrivaient, il fallait bien les loger. Et ces personnes, il fallait bien qu'ils vendent ce qu'ils avaient à l'intérieur. Donc vous voyez, il y a eu une mutation à cette époque-là d'œuvres qui sont sorties. Et puis comme j'étais aussi un peu ancré à Marseille, puisque mon père et mon grand-père avaient restauré des tableaux pour ces familles, donc ils sont venus me voir.
Vous avez commencé donc par être restaurateur de tableaux. Donc, racontez-moi un peu cette période. Donc, vous receviez des tableaux de ces gens qui possédaient des bastides qui allaient être confisqués. C'était comment ?
C'est pas confisqué, parce qu'on leur disait quand même qu'il fallait saleter, il fallait qu'ils vendent, parce qu'on allait... On allait construire ou même ils vendaient eux-mêmes parce qu'ils se rendaient compte qu'il allait y avoir des
immeubles. Dans les quartiers nord, c'est ça ?
C'est ça, oui. Mais la majorité des bastides étaient vers là-bas, vers la Stack, d'ailleurs. Les personnes venaient me voir en me disant, écoutez, venez, faites un saut si vous pouvez nous aider. Vous savez, à l'époque, n'oublions pas une chose, c'est qu'on est dans les années 74. Les commissaires-priseurs n'étaient pas des divas comme aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Sotheby's et Christie's n'étaient pas en France. Et les commissaires-priseurs vendaient des objets d'occasion. Maintenant, ce sont des divas. C'est vrai. D'ailleurs, ils ont pris la place de tout le reste. Et ce qui est bien, parce qu'ils ont avancé dans leur histoire. Mais c'était les notaires qui faisaient les inventaires. actes et les notaires faisaient venir des personnes qui éventuellement étaient acheteurs ou pas. Voilà, c'était pas où aider à la vente. Moi, il m'est arrivé d'aider à la vente parce que acheter, c'est souvent pas le cas parce que j'avais pas d'argent.
Donc, vous restauriez des tableaux, mais en même temps, vous commenciez aussi à collectionner ou à commencer à vendre des tableaux.
Oui, alors vous avez raison. Comme j'aimais ça et que j'étais toujours fasciné par les tableaux, quand j'avais la chance de pouvoir en acheter, mettons, 10, eh ben, j'essayais d'en garder un et de vendre les autres en faisant un petit bénéfice. Mais ce qui fait que 10 ans plus tard, je me suis retrouvé avec 300 tableaux et 40 ans plus tard, avec 1000 tableaux en stock. Voilà. Mais je crois qu'il faut, comme tout d'ailleurs, et je crois que vous avez aussi une passion, il faut y croire. Parce que j'avais des tas de confrères, moi, qui me disaient « Qu'est-ce que tu gardes des tableaux ? On en trouvera toujours. » Mais en fait, on n'en trouve plus. On n'en trouve plus du tout. Parce que d'abord, les bons tableaux ont été exportés, souvent. Et puis le marché a explosé. Et il n'y a plus foison. À l'époque, au Puce, le matin, le dimanche matin, vous pouviez trouver d'excellents tableaux provençaux. Maintenant, c'est de l'occasion. Et encore, pas souvent terrible.
Est-ce qu'il y a des ventes, d'achats qui vous ont marqué là, dans ces bastides, lors de vos visites? Est-ce que vous vous souvenez comme ça d'achats assez exceptionnels?
Alors, pour moi, ce fut exceptionnel, ce fut drôle, parce que un jour, j'ai un notaire qui m'appelle et on se retrouve dans une bastide. Et là, il y avait évidemment des meubles 18e, vous savez, les meubles en noyer, les choses comme ça. Et puis je vois six magnifiques Jean-Baptiste Olive, donc le peintre provençal, peintre qui dans les tableaux figure au buffet de la gare de Lyon à Paris. Et c'était des ports de Marseille. Mais il y en avait de grands. J'avais envie. Et les gens me disent, écoutez, occupez-vous de vendre tout ça. Bêtement, je dis, non, pas bêtement parce que ce fut bien, mais je dis, écoutez, moi j'aimerais vous acheter les tableaux d'Olive tout de suite. C'est pas la peine de vous dire, je vais m'occuper de les vendre. Et ça se passe bien, très correctement. Après, j'avais une chance inouïe, c'est que j'avais comme compagnon d'enfance un banquier qui était Christian Morel de la Banque Morel. Donc j'avais aussi la possibilité d'avoir des découvertes, ce qui était heureusement découvertes qui coûtaient cher à l'époque. Parce que...
Ça coûtait cher d'acheter un tableau d'Olive ?
Alors oui, ça coûtait un prix, mais le marché n'avait pas encore explosé. Le marché a explosé, alors bizarrement, il a vraiment explosé quand les étrangers ont commencé à s'installer dans le Luberon, dans des endroits comme ça, où ils ont fait le tour des musées, puis ils trouvaient cette lumière tellement extraordinaire qu'ils en ont acheté. Et puis les cours ont monté, et puis après il y a eu d'autres régions, les Anglais ont adoré ça, et d'ailleurs vous avez un Guigou devant vous, c'est les premiers acheteurs de Guigou, et ça reste toujours le premier marché, vous voyez. Donc parce qu'on parle souvent de contemporain, attention, il faut vivre avec son temps, mais il y a un marché pour tout, et il y a des passionnés pour tout aussi. Regardez, aux États-Unis, on vend aussi bien de l'ancien que des peintres américains d'aujourd'hui, qui souvent ont été des peintres qui ont regardé nos peintres français, parce qu'ils ont regardé Hartung, ils ont regardé Brienne, ils ont regardé ces gens comme ça, et puis ils ont travaillé dans leur façon, mais avec aussi un regard sur la France, qui fut quand même, pendant 2 siècles, le laboratoire et surtout la culture dans le monde. Regardez, on disait Paris, c'est le centre du monde en culture. Et tous les artistes venaient travailler à Paris.
Et qu'est-ce que vous avez fait alors donc de ces tableaux d'Olive? Vous les avez vendus assez facilement, rapidement?
Le premier, j'ai vendu rapidement. Le deuxième, un jour, j'ai un grand chef d'entreprise marseillais qui vivait à Paris, donc il voulait aussi son terroir. Et il me l'a acheté, mais à un bon prix, parce que le tableau montait. Le troisième, j'ai un commissaire-priseur qui me dit, qui est plus là, le pauvre, mais qui me dit, écoute, je voudrais faire une vente à Cassis, dans un lieu un peu mythique, donc dans une propriété à Cassis. Elle me dit, je voudrais la couverture, un truc très méridional. Troisième. Le quatrième, je l'ai vendu à un petit musée aux États-Unis. Le cinquième, je l'ai toujours. Vous voyez, je continue à vous dire que je garde.
Est-ce que c'est de cette époque que date votre goût pour les peintres provençaux?
Oui, parce que je considère toujours que c'est quand même des magiciens, parce qu'ils ont, que l'on regarde Monticelli, qui lui a inventé quelque chose, puisque Van Gogh ça a été complètement influencé, et vous aviez des grands collectionneurs, ou même des gens comme Verlaine, comme des gens comme ça, qui ont acheté des Monticelli de l'époque. Ensuite, des gens comme Guigou, on considère qu'avec Corot, c'est lui qui a ouvert la lumière dans la peinture, parce que la lumière, elle vient de l'intérieur, alors que quand vous regardez au 18e, en fait, le fond est sombre, 18e ou 17e, et il y a quelques touches qui font réapparaître le sujet. Là, c'est l'inverse. La lumière vient de l'intérieur, et le sujet fait partie de la lumière. Après, vous avez Camoin qui a fait partie du mouvement fauve. En 1905, il était dans la célèbre salle Matisse. Donc tout ça, c'était ces artistes provençaux qui furent à un moment très à la mode. Et aujourd'hui, ça l'est moins parce que justement, le phénomène de mode a changé, le 19e est moins apprécié. Mais ça reste quand même des génies. Ça reste des gens qui ont... Et puis tous les grands sont venus travailler dans le Midi. Regardez, Picasso... Ben, il est enterré à Aix, Renoir à Cagnes, Marquet, Dufy, ils sont venus à l'Estac pour travailler le mouvement fauve. Donc tout le monde est venu là. Donc ils ont tous été en contact, tous avec cette lumière. Donc c'est pour ça que ceux qui étaient déjà sur le terrain avaient été excellents. Je vais vous amuser, si vous permettez. Un jour, je vais faire une conférence à Chicago. On m'avait demandé une conférence sur les peintres de la lumière, et donc j'y vais, et puis c'est drôle, il y a une dame qui prend le micro, et elle me dit « Monsieur, Marseille, c'est loin de l'Estac ?» Parce qu'ils n'ont que des tableaux représentant l'Estac. Les peintres ne pouvaient pas travailler à Marseille, ça grouillait de monde à Marseille, c'était un port marchand, c'était... Donc ils allaient à l'Estac, ils allaient à Cassis, elle me dit « Marseille, c'est loin de l'Estac ?» Vous voyez, c'est pour ça que... Il faut pas négliger tout ça. C'est vraiment, et dans le monde, vous avez et vous voyagez sûrement, vous verrez toujours accroché un tableau représentant notre région. Bon, amusez.
Georges. Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia. Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back
else I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
En parlant de Van Gogh, vous avez une belle anecdote. Vous étiez tout jeune et il y a une personne qui vient ici vous voir, je crois,
oui,
pour une restauration de tableau ou bien un achat. Et qu'est-ce qui se passe alors ?
Alors, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est drôle. J'ai toujours aimé le bronze aussi, parce que je trouve que c'est tactile. Et un jour, il y a un monsieur qui me téléphone et qui me dit... Écoutez, j'ai une girafe de Barry, Barry fils, parce qu'il y a Antoine-Louis Barry le père et il y a Alfred Barry. Et Barry le fils a fait la célèbre girafe que Louis-Philippe a promené dans toute la France. Enfin, vous savez que ça a été quand même un phénomène. Et j'arrive chez lui, c'était au Compère, mais j'étais pas loin. Je vois cette girafe, je lui dis, écoutez, ça me plaît bien, donc je lui achète. Mais j'achète par passion. Donc, c'est peut-être un truc extraordinaire, c'est que je n'ai même pas négocié le prix. J'ai dit, je vous la prends. Elle me dit, ben, je vous offre à boire. Donc, on boit un verre, deux verres, trois verres, ce qui était quand même. Et puis, au bout du troisième verre, on discutait. Il me dit, vous n'avez pas un client pour un Van Gogh ? Et moi, au lieu d'être normal, je ne sais pas pourquoi, je dis, bien sûr. Mais je dis, bien sûr, comme si tous les deux, on se disait, ben, tiens, on part sur la Lune cet après-midi. Et il décroche le téléphone et il appelle le notaire à Amsterdam. Et il me passe le notaire, et là, le notaire me dit, mais mon ami me dit que, ça faisait peut-être trois quarts d'heure que j'avais rencontré le monsieur, que je peux avoir confiance en vous. J'avais acheté le bronze, donc il s'est dit, bon, on va le... Il me dit, vous savez, dans mon coffre, j'ai un petit Van Gogh. Alors, ce n'était pas la grande période de Van Gogh, c'était la période de Hollande, donc avant qu'il éclaire sérieusement ses tableaux, mais c'était un bouquet de fleurs. Et là, il me dit, écoutez... Les gens veulent payer des droits de succession avec. Ou... Je vous fais confiance. Je vous laisse un mois. Et il me dit, par contre, c'était un peu ambigu, je ne devrais pas le dire, mais comme on ne connaît pas le nom du notaire, il me dit, on divise par trois s'il y a un bénéfice. C'est-à-dire, mon ami, vous et moi. Pourtant, le notaire, lui, normalement... Et puis, d'un coup, j'ai été dessoulé. Hein. Mes trois verres, ils n'existaient plus. Je pars, et j'arrive dans la rue, et je me dis, mais... Tu démarres dans la vie et tu vas te ridiculiser, tu vas avoir un mauvais aura, enfin tout. Et j'ai eu une chance, j'étais déjà allé à Paris plusieurs fois, et il y avait une dame qui avait 25 ans de plus que moi, qui travaillait déjà avec les États-Unis, avec le Japon à l'époque, et qui était une dame très 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 bien. Et là, je me dis, je vais tenter le coup. Je l'appelle et je lui explique. Elle était morte de rire, elle me dit, écoute, tu vas essayer de... on va s'en occuper. Et il se passe un truc étonnant, c'est que maintenant, il y a la fondation. Mais à l'époque, c'était un expert allemand qui, je vous dis, il y a 50 ans de ça, hein, c'était un expert allemand. Et cet expert, il ne prenait pas d'argent, mais il voulait être pendant une semaine dans le plus grand hôtel de l'endroit où il était. Évidemment, il fallait que ce soit un endroit important, avec vraiment, il prenait ce qu'il voulait, hein, champagne, tout ça, mais il faisait des recherches. Vrai ou faux, hein. Et une semaine après... Un peu moins d'une semaine.
Il va là-bas, donc. Il va en Hollande.
En Hollande, il vérifie. Mais en fait, il le savait dès le départ, lui. Hein. Mais il voulait profiter. Oui, parce qu'au bout d'une semaine, il dit, je l'ai retrouvé dans la première expo de chez Rosenberg. Ou je ne sais plus, enfin, je ne me rappelle plus si c'est Rosenberg ou Durand Ruel ou Vollard, enfin, un truc comme ça. Et il dit, je l'ai retrouvé dans la première expo. Donc, nous, on était très heureux et on a vendu le tableau. Et vous voulez que je vous dise ? J'ai jamais vu, moi, le tableau. J'ai vu une photo, mais une vieille photo en noir et blanc comme il y avait à l'époque. Vous les connaissez, ces photos, où c'était quand même pas génial. Mais voilà. Voilà comment les passages de cette vie ont fait que je me suis régalé, je me suis promené toute ma vie.
À quel moment vous avez décidé d'être collectionneur vous-même ?
Alors, je l'ai toujours été, je vous dis, parce que j'ai toujours essayé de garder un ou deux ou trois tableaux. Et en fait, je suis devenu collectionneur. Je suis surtout devenu collectionneur de Monticelli parce que c'est un artiste qui m'a fasciné. Et
qui vous a fait découvrir Monticelli? C'est tout seul?
Non. Je vous dis, mon père m'avait fait découvrir Monticelli, vraiment. Mon père avait commencé à écrire un bouquin. Je vous dis, il n'était pas commerçant, loin de là, mais il avait une vraie passion. Et en tant que restaurateur de tableaux, il était excellent. Donc, il avait commencé à faire le catalogue raisonné, on appelle donc qui n'est jamais fini d'ailleurs. On appelle ça catalogue raisonné, mais il faut des tomes, et ça dure une vie, parce qu'il ressort toujours quelque chose. Et donc, en voyant ça, l'avantage de la restauration de tableau, c'est qu'on voit à travers le tableau. On n'est pas juste devant la belle image. On voit la technique, on voit la matière, on voit tout. On voit les réserves que l'artiste a laissées sur son panneau, puisqu'il Monticelli peignait sur des panneaux de noyer, il laissait des réserves. Mais les réserves, lui, c'était pas pour laisser des réserves, c'est que le noyer était devenu pour lui une couleur. Donc vous voyez, c'est assez magique. Donc ça m'a fasciné et j'en ai gardé. Puis un jour, j'ai eu une autre chance, c'est que j'étais dans mon bureau, de l'autre côté, là. Et puis la dame qui gardait la galerie, parce que j'étais souvent absent pour aller voir des tableaux ou pour voyager, toujours pareil. Et elle me dit, vous avez un couple de Japonais avec un petit garçon qui voudrait vous rencontrer. Alors, je suis un peu étonné. Et le monsieur me dit, écoutez, voilà, je vous explique. Il y a eu une expo Van Gogh à Tokyo. Et on a mis un grand bouquet de fleurs de Van Gogh, et à côté, on a mis un grand bouquet de fleurs, qui est celui, en fait, que vous pouvez retrouver, qui est la succession de Theo Van Gogh, et qui est au Rijksmuseum à Amsterdam. C'est un bouquet de fleurs, ça s'appelle le vase aux trois pieds. Et ce Japonais a été subjugué, et il a dit, écoutez, j'ai une entreprise qui marche très bien, je voudrais monter une fondation. Il me dit, aidez-moi. Et donc, ça a commencé comme ça. Il avait mis pratiquement un compte ouvert. Mais il n'était pas idiot non plus, hein, parce qu'il contrôlait tout. Hein. Un compte ouvert, c'est Paribas. Et il m'a dit, trouvez-moi de magnifiques tableaux. C'est pas grave s'il voulait payer 10 ou 20% plus cher que ce que ça vaudrait. Je veux de magnifiques tableaux. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à chercher des tableaux pour lui. Et puis, en même temps, comme je gagnais bien ma vie par ailleurs, et grâce à lui, je gardais des Monticelli, idem, et je suis allé bien souvent au Japon pour son expo. Et des années plus tard, c'est moi qui montais ma fondation.
Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial Monticelli? Donc, vous en avez parlé tout à l'heure, mais pourquoi ce peintre-là? Alors, c'est vrai qu'en règle générale, vous aimez donc les peintres provençaux, mais Monticelli particulièrement, puisqu'il va vous suivre durant toute votre vie professionnelle.
Ah ben, il est toujours présent, d'ailleurs. C'est
sa vie qui vous intéresse aussi, son parcours?
Oui, non, mais sa vie...
Qu'est-ce qu'il a comme parcours, alors?
Alors, lui, il a un parcours qui est un peu spécial, c'est que son grand-père était peseur juré. Peseur juré, évidemment, vous savez ce que c'est c'était... en fait, le port de Marseille tournait 24 heures sur 24 et il y avait un peseur juré qui pesait la marchandise et qui prenait une dîme, qui faisait l'inventaire. D'ailleurs, l'État enlevait ça parce que ça rapportait un peu trop et peut-être que ça avait moins d'intérêt. Donc, le grand-père était peseur juré. Ils arrivaient d'Italie aussi et il avait fait fortune. Et donc, son fils est devenu aussi peseur juré parce que c'était des charges qui se transmettaient plus de père en fils. Ça rapportait tellement. Et puis, un jour, le fils, donc, dit à son père, « Père, j'ai rencontré une jeune fille. » Le père, qui était quand même italien et pas encore accepté par les notables marseillais, lui dit, « Quelle famille, quelle dot ?» Et donc, le fils lui dit, « Non, le père est mort dans la campagne napoléonienne. » Et la mère s'occupe de repriser des vêtements. Alors il lui dit, mais c'est pas possible. Et le fils lui dit, mais on a fauté. Et on entend un enfant. Et donc le grand-père officiel d'Adolphe Joseph Thomas Monticelli dit, mais on n'en veut pas. Il ne s'appellera pas Monticelli. On va le mettre en nourrice à Ganagobi, parce que j'ai une propriété à Ganagobi. Vous savez, là où il y a le prieuré, et dans les Basses-Alpes. Et là... Il part, et ce petit, il a... c'est ça le don d'ailleurs. Ce petit, il arrive chez des cultivateurs qu'il a toujours considéré comme ses parents d'ailleurs. Il se levait à 14h du matin et à 17h, il se couchait hein, avec le soleil. Et n'oublions pas une chose, c'est qu'en 1824, à 30 km de Marseille, on parlait le patois. Hein. Donc, il n'a pas appris réellement tout ce qu'il aurait pu apprendre en ville. Et puis, à 11 ans, on le récupère. Alors, il courait dans les bois, il criait, mais il commençait à dessiner. Tout ça le fascinait. C'est pour ça que si vous regardez un paysage de Monticelli, vous serez étonné parce que ça vibre. Et le 11 ans, on le récupère parce que le grand-père avait perdu son épouse et il avait rencontré une jeune femme et il voulait se remarier. Alors, le père lui dit, j'aimerais que tu... D'accord, de toute façon, tu n'as pas le choix, mais il faudrait qu'il y en ait un qui s'appelle Monticelli, on le rapatrie. Et là, ce fut le drame pour notre artiste. C'est qu'en fait, il s'est retrouvé à l'école, mais à l'école, il n'y restait pas. Il criait, il sortait. Et pour lui, jusqu'à 11 ans, il avait été libre, libre. Alors on prend un précepteur, parce que la famille avait de l'argent. Le précepteur, il dit, j'en ferai rien, moi non plus. Et il s'en va, il ne m'écoute même pas, il s'en va. Et puis un jour, le petit Monticelli dit, j'aimerais rentrer à l'école des Beaux-Arts. Et là, il se passe un truc extraordinaire, c'est que la maman, qui était quand même issue d'un milieu plus que pauvre, était devenue... Elle faisait salon, elle était devenue quelqu'un d'important, et elle dit, je ne veux pas de va-nu-pied dans la famille, parce qu'à l'époque, les peintres, c'était va-nu-pied, les comédiennes, c'était des péripatéticiennes, enfin, c'était très, très péjoratif quand on était danseuse. Vous voyez, tout ça change avec les siècles. Et il rentre aux Beaux-Arts, et là, il s'est promené. Prix des Beaux-Arts, médaille de la ville de Marseille, et il s'est retrouvé parce que il y a un truc aussi que le grand public ne sait pas souvent, c'est que ça n'a été qu'en 1878 qu'on a appris la peinture dans les écoles des Beaux-Arts. Avant, on apprenait le dessin, on apprenait la sculpture, on apprenait, enfin, et le modelage. Et donc, quand vous étiez excellent, eh bien, le maître, entre guillemets, vous envoyait à Paris parce que c'était là. Comme je disais, c'était le centre du monde culturel. Et il n'y avait pas de jalousie à l'époque. Les gens savaient qu'ils allaient recevoir un bon. Et ils allaient pouvoir transmettre quelque chose. Et ils se retrouvent dans l'atelier d'un artiste qui a un peu disparu. C'est un artiste qui s'appelait Diaz de la Peña, qui était un artiste de Barbizon. Mais pour Monticelli, c'est pour ça. Vous savez, Paul Éluard a dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Eh bien, au bout du couloir, il y avait l'atelier du vieux de la Croix, parce qu'il appelait le vieux, il était plus vieux, et il allait sans arrêt. Et vous retrouvez certaines touches de Monticelli, c'est de la Croix, cette liberté. Et je crois que c'est en 1952 ou 56, il y a eu une expo au Louvre, et le conseil de Monticelli, et le conservateur, pour le titre du catalogue, a mis Monticelli, le chaînon entre Delacroix et Van Gogh. Alors, donc, c'est pour ça qu'on peut être que passionné quand on regarde le travail, l'évolution, la réussite en peinture, parce que financière, ils s'en sont toujours fichés, hein, je veux dire, c'était pas... De toute façon, on regardait les artistes en général.
Il a fait fortune de son vivant ?
Alors, il a fait de l'argent. D'abord, il avait de l'argent de famille, mais surtout, il a fait de l'argent parce que, vous savez qu'en 1868, les notables marseillais voulaient travailler avec l'empereur, surtout ceux qui travaillaient, ceux qui avaient des bateaux, qui faisaient du commerce avec le monde. Ils avaient envie de travailler avec l'empereur et ils ont acheté le terrain du Pharo et ils ont fait construire, grâce aux architectes de l'empereur, un palais qu'ils ont offert à l'impératrice Eugénie. Et l'empereur et l'impératrice sont descendus, ils ont inauguré le palais, et on leur a présenté Monticelli, parce que le maire de l'époque, comme c'était une ville très riche, vous voyez, là aussi tout change, et le maire de l'époque a dit, on va lui présenter quelqu'un qui, Napoléon III, est quelqu'un de novateur dans ses idées, et on lui a présenté Monticelli, il a été... agréablement surpris, c'est là qu'il a acheté des tableaux pour les Tuileries, tableaux qui ont brûlé dans l'incendie malheureusement sur la commune. Vous savez qu'il y a eu ces trois fous qui ont mis le feu, dont un a dîné au champagne pour regarder sa réussite. Et après, c'est là où il y a eu des problèmes, c'est que les musées ont acheté des Monticelli. Et comme il n'y avait pas d'experts, c'était plus les riches remplissaient leurs hôtels particuliers. D'ailleurs, quand on voit des photos, parce que vous en avez sûrement vu. Ça démarre à 60 cm jusqu'à 5 mètres. S'il y a des... Et tout ça est collé les uns à côté des autres. Et donc, ben, les faussaires se sont greffés là-dessus. Et donc, on a des faux Monticelli pratiquement 20 ans avant la mort de Monticelli.
Est-ce qu'il y a d'autres peintres provençaux qui vous ont attiré, qui vous ont intéressé particulièrement et que vous avez collectionné ?
Paul Guigou, d'abord parce qu'ils se sont bien connus, puisqu'en 1860, ils avaient comme professeur à l'École des Beaux-Arts, ils avaient Loubon. Loubon, ce fut le créateur de l'école, en fait, de l'école provençale. Et Loubon, un jour, a dit aux deux, il a dit... Guigou, vous êtes trop méticuleux dans votre travail, et Monticelli, vous êtes trop libre dans votre travail. Alors vous allez essayer de travailler ensemble. Et ils sont partis dans la vallée de la Durance. Enfin, ils sont restés 6 mois ensemble à bosser. Ils auraient pu rester longtemps, mais la mère de Monticelli étant malade, il est rentré. Et en fait, c'est Guigou qui a été influencé par Monticelli, parce qu'il y a une toute petite période où il fait des touches un peu plus épaisses que cette peinture très, très photographique, comme vous pouvez voir. Et je trouvais que l'histoire était belle, et puis en même temps, je trouve que cet artiste, je vous dis, qui est malheureusement aujourd'hui délaissé, alors que vous allez dans nombre de grands musées, vous avez des guigous, c'est un artiste qui ouvre cette porte dans la lumière sur ses tableaux. Voilà, c'est deux artistes qui m'ont touché dans la peinture mondiale. Après, il y en a pas mal. Verdillon, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est quand même aussi un magicien, Camoens, il y en a plusieurs, mais il y en a deux qui personnellement m'ont attiré et dont j'ai gardé des œuvres.
Vous avez aussi été attiré par le nouveau réalisme, un artiste marseillais que vous avez connu personnellement, qui s'appelait César.
Eh ben bien sûr, mais là, ça... bravo, vous en avez fait des recherches. Non, ben César, alors je l'ai bien connu, mais je l'ai connu grâce à un de mes amis qui était à l'époque, c'était Michel Montana, qui était le président du journal La Marseillaise. Et donc, il se connaissait bien. Et un jour, je lui dis, mais il y a longtemps de ça, je lui dis, écoute, Michel, j'aimerais rencontrer César. Ah, mon Dieu, bah, il n'y a pas de problème. Et puis on se retrouve avec César. Et là, on a accroché tout de suite, mais vraiment tout de suite. Et c'était un homme attachant. C'était un homme drôle parce qu'il avait une passion vorace pour l'argent. L'argent papier, hein. Pas le chèque, hein. L'argent papier. Parce qu'en fait, il était issu d'un milieu particulièrement pauvre. Et lui, il avait fait ce syndrome de l'argent. Il n'offrait jamais un café. Mais par contre, un jour, c'était drôle, un jour, j'étais chez lui dans son atelier et je lui dis, vous voulez qu'on aille déjeuner? Moi, je vous voyais, lui, me tutoyer, ce qui était normal. D'abord, il avait plusieurs années de plus que moi. Et je lui dis, vous voulez qu'on aille déjeuner? Et elle me dit, petit, il y a un endroit extraordinaire avec sa faconde. Il me dit, il y a un nouveau chef au Lutetia. On était à Paris. Je dis, on va déjeuner. Et donc, on va déjeuner, mais si vous aviez vu, si vous aviez connu César, c'était quand même un petit tonneau. Hein. Il était pas plein d'air. Hein. Il mangeait bien. Et alors, c'est extraordinaire, quand il vous faisait la cuisine, vous sentiez l'ail pendant une semaine. Hein, parce que c'était le provençal dans tout le sens du terme. Et là, on arrive au Lutetia, on déjeune. Et puis, on repart dans son atelier après. Et puis il me dit, écoute, petit, attends-moi, hein, avec sa façon de parler. Puis il revient, et il avait fait deux petites poulettes sur deux feuilles à quatre, vous savez, deux. Et il me dit, ramène-les à Marseille, ça leur fera plaisir. C'était sa générosité. Par contre, il ne fallait pas lui dire, paye-moi un café ou c'est toi qui paye le repas. Mais il avait cette générosité et il a toujours été très attachant comme homme. Vraiment.
C'est quoi ces deux poulettes, c'est-à-dire ?
C'est des dessins représentant, vous savez que son sujet de prédilection, c'est souvent des sculptures, des bronzes représentant des poules. Et donc, comme lui savait dessiner, puisqu'il a été, il a tous les prix des Beaux-Arts aussi, alors que c'était un autodidacte au départ. Il savait à peine lire et écrire, il sortait d'un milieu tellement pauvre. Et d'ailleurs, pourquoi il a voulu aller aux Beaux-Arts, mais son père l'a mis aux Beaux-Arts, parce que les Beaux-Arts, c'était gratuit. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà comment la chance, sans le faire exprès, taf, on force la chance. Et après, c'est un fabuleux... c'est un ressort extraordinaire.
Lui, il savait dessiner.
Lui, mais il dessinait à la perfection. Mais vraiment à la perfection. D'instinct. C'est pas quelqu'un qui avait besoin de faire deux, trois dessins. Ça allait à une vitesse. Non, lui, il savait. Je vous dis, il a eu ses prix à l'École des Beaux-Arts. Et à l'École des Beaux-Arts, à l'époque, c'était plus compliqué parce que il fallait savoir dessiner pour qu'on vous donne un prix. Hein.
Est-ce qu'il habitait aussi à Marseille ?
Il habitait aussi à Marseille, un certain temps, mais surtout à Paris.
Et donc vous l'avez fréquenté pendant quelques années ? Vous aviez des œuvres de lui que vous avez vendues ou...
Alors j'ai acheté des œuvres et j'ai acheté pas mal d'œuvres. Et en fait, j'ai commencé à en vendre que dans les années 95. Sinon, je les ai gardées. On arbitre des collections. Et puis, il ne faut pas oublier que la dernière, c'est toujours la plus belle. Donc, la dernière œuvre qu'on a achetée, c'est toujours la plus belle. Donc, on se dit, bah, tiens, on va peut-être en vendre celle-là, qui fut considérée comme la plus belle à l'époque, mais qui est moins attractive dans une collection. Parce que, je vous dis, on arbitre et on fait évoluer une collection.
Il y a eu d'autres artistes de ce courant, là, le nouveau réalisme, que vous avez connu, Armand ou d'autres?
J'ai connu surtout Ben aussi. Alors, c'était drôle, parce que Ben... D'ailleurs, j'ai un tableau chez moi où il a écrit « Je suis beau ». Et il me l'a offert. Et au dos, il a écrit « À Marc, le plus beau des Marseillais de Marseille ». Vous voyez, pour vous dire, c'était bon. Mais on avait des rapports... alors je ne peux pas dire, avec César des rapports d'amitié, mais avec les autres des bons rapports. C'était pas, je veux dire, on mangeait un morceau, on buvait un coup. Ça m'a sauvé la vie de savoir boire aussi. Avec tous ces,
il fallait vraiment savoir boire.
Ouais. Non, mais pas savoir boire, mais dans le sens où avoir ne pas être gêné, ne pas dire non, j'arrête ou un truc comme ça, parce que
un bon vivant quoi.
Voilà, les artistes, ça a toujours été bien souvent de bons vivants. Et les grands collectionneurs aussi, parce qu'ils ont souvent un tel stress dans leur boulot que quand ils en sortent, bah, ils se font plaisir. Et voilà. Donc Ben, Armand, j'ai eu moins de rapports et pas très agréable, parce qu'Armand était vraiment un... pour moi, il a été un grand commerçant, surtout. Après, il y en avait des tonnes. Mais à l'école de Nice, je les avais... Après, j'allais souvent chez Ferrero, qui était leur marchand à Nice... qui n'est plus là d'ailleurs, mais... Et c'est lui qui avait réuni tout ça dans cette école de Nice. Bon, en fait, avant lui, il y avait quand même... comment il s'appelle C'est lui qui avait créé un peu cette histoire de l'école de Nice. Klein, voilà, bravo. Félicitations. Hier, j'avais 9 copains à la maison. Je crois qu'on a un peu trop chargé. Non, et donc le Klein a ouvert cette porte dans l'école de Nice. Et c'est pour ça qu'il y a eu César, il y a eu Armand, il y a eu Farry. Il y a eu tous ces jeunes, mais qui ont créé une émulation, qui ont travaillé ensemble. Et puis après, ils se sont détestés. Mais ça, c'est le principe même, comme dans les fauves. Ils ont fait le mouvement fauve et après ils ont commencé à se détester et le mouvement a explosé.
Les artistes contemporains, vous avez continué à les suivre, à les vendre, ou vous êtes quand même resté fidèle sur le 19e, début 20e, durant votre carrière?
Toujours fidèle à la période, donc de 1870 à 1910, toujours.
Vous n'avez pas abandonné à un moment donné pour vous intéresser à ce qui se faisait de contemporain, quoi?
Non, j'en avais et j'en ai, mais plus par plaisir que par commerce. Je vous dis, j'ai commencé à vendre des César que dans les années 95, alors qu'il y avait bien longtemps que j'en avais. Je considérais que ces artistes aussi étaient des vrais artistes, voilà. Et après, bon, après je suis sorti de là d'abord parce que l'âge, et puis en même temps, moi la passion. Et
vous savez, c'est quoi les vrais artistes pour vous?
Les vrais artistes, ben, je me répète, c'est celui qui est sincère dans son travail, c'est pas celui qui commence par faire ça... par signer pour dire combien je vais vendre, c'est, vous voyez, c'est ça, un véritable artiste. Et tous ces artistes, César, il a ramé avant d'arriver quand même, et il a travaillé. Alors, vous avez aussi des gens qui explosent tout de suite, mais après, on peut exploser parce qu'on a un M. Pinault derrière soi, pour certains artistes, mais là, c'est différent. Vous le savez, vous vous intéressez à la photo. Et je crois que vous connaissez aussi certains photographes qui ont ramé et qui ont fait des merveilles. Mais, et d'autres, l'histoire elle est moins belle et pourtant ils ont fait ils ont été connus de leur vivant.
Alors, vous avez monté votre dernière galerie rue Rostand. Qu'est-ce que vous y faisiez là-bas exactement? Quelle était l'idée de ce lieu?
Alors là, c'était différent. C'était que je voulais d'abord avoir un lieu beaucoup, beaucoup plus grand, puisqu'elle faisait plus de 500 mètres carrés. Et à un moment d'ailleurs, j'avais monté un département street art, parce que c'était grand, et il y avait 2 personnes qui s'en occupaient. En moins d'un an, j'ai perdu tellement d'argent, parce qu'en fait, ça montait, ça descendait, il fallait presque vendre comme les actions au jour le jour. Alors j'ai dit, c'est pas mon histoire ça, parce que moi j'aime bien acheter, stocker, regarder, aimer, et puis éventuellement transmettre à un collectionneur.
C'était la spéculation, ça.
Ah, pour moi, c'était trop... Et c'est pour ça d'ailleurs, parce que je ne savais pas le faire, donc j'ai perdu de l'argent. J'ai dit, on ferme ce petit département, ce n'est pas la peine, parce qu'en plus ça ne me plaisait pas. Enfin, ça ne me plaisait pas, ce n'était pas mon ADN. Je n'ai jamais su acheter et vendre le jour même ou le lendemain, ou vérifier si 8 jours après ça avait monté ou descendu. Et c'est là que j'ai rencontré des bizarres collectionneurs, je dis bien bizarres, qui achetaient un truc et puis 3 jours après, ils venaient et disaient, j'ai gagné combien ? Pour moi, il me parlait pékinois ancien. c'était pas possible. Donc c'est pour ça, ces deux mondes. Le monde de l'art, c'est d'abord, l'art est irrationnel, tout le monde le sait. Et en même temps, c'est deux mondes différents. Vous avez le monde de la passion, et puis vous avez le monde de la spéculation. Ça se termine de la même façon, mais c'est deux mondes différents. Vous pouvez conjuguer avec la passion, vous arrivez à la spéculation, parce que si vous avez acheté avec passion, de toute façon, vous ne perdrez jamais. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas en se disant « je vais acheter de l'art » que je vais gagner. Ce n'est pas vrai.
Et qu'est-ce que vous pensez des cours artistiques d'aujourd'hui ?
Ben, je ne peux pas penser parce que je ne m'en occupe pas et je n'ai pas d'accroche ni d'approche. D'abord parce que je me suis arrêté de bosser parce que là, je veux ça. Et comme je n'ai jamais adhéré à ça, parce que je suis resté dans la période, c'est un peu...
Au street art, vous voulez dire, ou à quel courant ?
Non, mais par exemple, j'ai bien aimé, j'ai des Artung, j'ai des Polyakov, des gens comme ça. Mais parce que eux, pour moi, eux, ils ont créé quelque chose. Ça a été un mouvement qui a suivi, et puis voilà. Mais le street art, je suis incapable. Mais je le rejette pas, mais je le connais pas. Je le connais pas du tout, du tout, du tout.
Vous êtes encore à l'affût un peu d'œuvres, il y a une curiosité qui est restée chez vous ?
Ah, complètement, mais je m'amuse à aller sur des déballages. À Montpellier ou à Avignon, mais par plaisir.
Pour des déballages.
Des déballages de marchands, ce sont des déballages de professionnels. Et je crois que c'est 2-3 fois par an, il y a des déballages de professionnels où vous avez plus de 1200-1500 marchands qui arrivent d'un peu partout. Et là, c'est un peu... Après, moi, j'achète beaucoup de cadres, parce que comme j'ai pas mal de tableaux en stock, bah, il faut les encadrer. Il faut préparer l'avenir de mes enfants. Il faut que tout soit prêt. Voilà.
Marc Stamenia, pour finir cet entretien, quel regard vous jetez sur votre carrière ?
Bah que j'ai eu la chance de me promener. Ma vie sentimentale, malheureusement, ça n'a pas été l'idéal. Et j'espère me rattraper maintenant, mais simplement parce que j'étais trop pris. Vous savez, à un moment, je faisais 150 000 km d'avion par an. Donc, c'était pas possible de pouvoir... Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir une passion dévorante. Et puis la partager, parce que vous partagez rien, en fait. Vous partagez pas votre temps, vous partagez pas votre passion, elle est trop, trop forte. Mais sinon, je regrette rien.
Au niveau professionnel.
Au niveau professionnel, je crois que si c'était à refaire, je referais, bien que je ne sache pas vraiment me servir d'un ordinateur, mais je l'en ferais avec plaisir.
Oui, c'est ça, vous n'avez pas d'ordinateur.
Non, je n'ai pas d'ordinateur parce que je fais encore partie de cette génération où je pense que le contact, et vous le voyez, le contact y est pour beaucoup. Et je trouve ça un peu incroyable de pouvoir traiter un tableau sans voir la personne, un tableau ou autre chose, sans voir la personne, sans pouvoir avoir ce rapport de plaisir, de contact et de discussion juste à travers un écran. Et vous le savez aussi bien que moi, il y a énormément d'escroqueries et de faux qui circulent à cause de ça, alors que vous n'avez personne en face. Non, je regrette pas. En fait, je vais vous dire un truc. Je regrette mon âge, parce qu'on voit toujours un peu son âge, mais je ne regrette pas mon âge parce que ce que j'ai fait, je ne pourrais plus le faire. Ou alors, il faudrait que je colle à cette histoire.
C'est-à-dire, ce qui vous gêne aujourd'hui, c'est quoi ?
L'absence de contact, l'absence de rapport avec le collectionneur ou avec l'acheteur. Et puis surtout, ça a toujours existé, l'art et l'argent. Mais aujourd'hui, c'est devenu vraiment une... Vous avez des gens qui créent des petits fonds d'investissement, sans savoir... Ils créent des fonds d'investissement de signature. Voilà. Vous allez dire que je suis un dinosaure, mais c'est vrai. Je suis un vrai dinosaure.
Merci Marc Stamenia, au revoir.
Au revoir et merci à vous.
Vous venez d'écouter Voix Marseillaise, une émission de David Hacoun. Merci à Sidi de Radio Galère et je vous dis à bientôt. Au revoir.